franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec l'énergiemoinschère.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.
Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un camouet.
Mon amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, qui pour cette dernière de la saison prend le temps, comme d'habitude, de ne pas aller trop vite. Avec Sandrine Laurent et Philippe Duclos à la technique et assisté de Stéphane Combe, c'est Valérie Ayesterhaï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur, donner un prix au vivant pour mieux le sauver. Autrement dit, mettre un code-barre sur les abeilles, les marmottes, les cigognes, les mares, les mouettes tridactyles, les orchidées sauvages, les torrents. Idée purement économiste qui intéresse un certain nombre de multinationales, on comprend, qui sont plus fortes que les États, mais qui ne tient pas compte de l'essentiel et qui est inchiffrable, les relations, les interactions, comme on dit, les relations entre tous ces éléments. Voici donc un des exemples de l'économie verte qui fut moulinée à Rio+20. Alors René Dubos, lors du premier sommet sur l'environnement en 1972, parlait de penser global, agir local. La formule aujourd'hui encore résume heureusement l'état d'esprit des ONG, des entreprises et collectivités locales qui de plus en plus se parlent et se rapprochent pour relever un défi que les politiques peinent un petit peu à prendre en compte à son juste niveau. Alors la prédation de l'homme occidental sur son milieu étant devenue quasi systématique, le lien qui nous unit à la Terre considérée comme une aimable philosophie pour Bobo, je n'aurai qu'une seule question existentielle, l'équipe de foot de France va-t-elle ou non rentrer ce soir à la maison ? Mais des choses quand même tout à fait joyeuses autour des abeilles. 20 à 30 000 abeilles ensemble, eh bien ça fait un essaim. Oh, un petit essaim, mais quand même. 20 à 30 000 personnes qui se rassemblent dans 60 villes, encore aujourd'hui, pour les journées Happy Days. Eh bien, c'est un événement qui permet autour des ruchers urbains de témoigner de la passion et des inquiétudes qui habitent les abiculteurs et tous les amis de l'abeille en général. Donc, un rendez-vous familial, festif, militant, gratuit en faveur des pollinisateurs sauvages ou domestiques, sentinelle, on le sait, de notre environnement, car on sait qu'il y aura plus bientôt de bon miel que dans nos cités polluées, ce qui est un comble puisqu'il est dit que la guerre chimique n'a pas fini de stériliser les campagnes. Une nouvelle fois donc durant ces journées, les syndicats apicoles vont essayer de mobiliser l'attention. Et après avoir tiré les rois, rassemblons-nous car nous aussi, en bourdonnant, nous pouvons fêter dans les ruchers le jubilé de la reine. Et alors j'ai justement entre les mains un numéro hors série tout à fait remarquable, les cahiers de nature de nos amis et partenaires donc de Terre Sauvage, spécial abeilles, qui s'appelle tout simplement « Vive les abeilles !» point d'exclamation, avec un tour du monde des apiculteurs, avec des photos mais vraiment très belles, et enfin plus que ça d'ailleurs, d'Éric Tourneret qui est un spécialiste photographe, qui nous emmène sous les tilleuls en Roumanie, au Mexique, en Inde, dans les falaises sacrées des Iroulas, c'est-à-dire des cueilleurs de miel. On voit aussi les abeilles en ville à Paris, Manhattan, Hong Kong, Berlin. On voit la profession d'abeille domestique, hein, qu'est-ce qu'elle fait, tout le fonctionnement, la journée d'une apicultrice, la démarche de Melvita qui a commencé dans une ferme apicole en Ardèche. Donc c'est vraiment un très beau numéro. Donc Terre Sauvage, vive les abeilles, le monde, le tour du monde des apiculteurs. Au menu de cette émission. Alors de quoi allons-nous nous piquer ? Eh bien, ce sera dans quelques instants Jean-Marie Pelt. On va parler de phytoremédiation avec lui. Nous nous intéresserons donc aussi à Emmaüs qui tient salon. Donc, qui tient salon demain à la porte de Versailles. Donc c'est le point, on va faire un petit point sur ce que fait cette association en matière de recyclage, d'insertion, de récupération. Et puis il y aura l'actualité avec Nathalie Fontrelle. Mais une autre actualité qui va nous emmener pas très loin d'Abbeville. On va aller dans le département de la Somme. Ça pourrait s'appeler « Les Picards veulent la peau de l'usine à vaches ». Et avec vous, Philippe Salé, nous allons en parler. Vous êtes le porte-parole de Novicen. Novicen, c'est un acronyme pour dire « Nos villages se soucient de leur environnement ». Et là, on voit donc un méga projet qui pointe son nez sur les communes de Druca et de Buigny-Saint-Maclou. Donc, on n'est pas loin d'Abbeville dans la Somme. Faites-nous le point, Philippe Salé.
Mais écoutez, c'est un projet que les habitants ont découvert il y a maintenant plusieurs mois. C'était à la fin de l'année 2011, au mois de septembre, par une enquête publique. On a découvert qu'un projet d'une usine de 1000 vaches laitières avec 750 veaux qui était prévu à proximité de notre village allait être peut-être construit et surtout associé également à un méthaniseur pour traiter les déchets agricoles, mais aussi tous les déchets industriels, des collectivités, des cantines, etc., et que ça allait constituer une véritable petite zone industrielle, parce que ce méthaniseur, il est d'une puissance tout à fait hors agricole classique.
Et donc on va dire que le tarif de rachat est fixé à 15 centimes,2 d'euros par kilowattheure. Donc ça attire évidemment certaines convoitises aujourd'hui. On entend bien qu'on est dans un intensif absolument incroyable. Vous nous dites 1000 vaches, hein, c'est ça ?
1000 vaches, si vous voulez. Nous, bien sûr, on n'est absolument pas opposés. On n'a pas d'avis à donner. Bien au contraire, on est d'accord pour que les éleveurs se regroupent, pour qu'ils fassent de la méthanisation pour traiter leurs déchets, les déchets animaux.
Les lisiers, hein, donc c'est ça.
Voilà, les lisiers, tout ça, ça paraît logique. Et on est clairement pour ce comportement qui est tout positif en termes de récupération énergétique.
C'est-à-dire qu'on rappelle une chose, le lisier, bien sûr, issu des excréments donc des bovins, on peut l'utiliser comme fertilisant sur les terres, ou bien on va l'utiliser en méthanisation. C'est-à-dire qu'on va mettre les bouses qui vont être enfouies dans une grosse capsule, ça va être chauffé à 40 degrés, et donc ça va produire du biogaz.
Voilà, tout à fait, qui sera ensuite converti en électricité, récupéré, racheté. Par contre, là, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Ça n'est plus un projet réellement agricole, puisque c'est un entrepreneur du bâtiment et travaux publics, M. Ramry, qui a projeté cette ferme et qui va donc lui donner une amplitude considérable, la plus grande ferme de France, et qui va donc lui mettre adjointe un méthaniseur qui lui aussi va produire 1,5 MW. C'est une quantité colossale par rapport au méthaniseur habituel des agriculteurs de 0,1-0,2 MW.
C'est-à-dire qu'on s'intéresse davantage à l'excrément plutôt qu'au lait.
Alors là, on comprend bien que la ferme est en fait un prétexte pour que ce méthaniseur s'intitule agricole, mais en fait, il ne l'est plus, il devient vraiment industriel. Et le fond du projet, c'est surtout ça.
Alors pourquoi vous n'en voulez pas, vous, en fait ?
Eh bien, on n'en veut pas parce que, d'une part, quand on voit des méthaniseurs de cette ampleur avec un mégawatt dans d'autres pays comme en Espagne, ils sont situés au moins à 2 km. Or, le nôtre, il serait à 500 mètres en étant plus gros encore que ceux qui sont ainsi codifiés. Ensuite, donc ce méthaniseur par lui-même génère des risques. Hein. Il y a des risques d'explosion, il y a aussi des risques de gaz qui vont être émis en dehors des nuisances olfactives et autres. Et donc, ces émissions de toxiques éventuelles sont qualifiées dans le projet de risques toxiques et cancérigènes acceptables. Donc évidemment, c'est quelque chose qui fait réagir les habitants. Risque bien sûr de passage dans les nappes phréatiques, de tout un tas d'éléments toxiques. On est quand même bien sûr impressionné par tout ce qui s'est passé en Bretagne avec les algues vertes. Imaginez des animaux qui vont vivre de leur naissance dans un box et qui ne vont jamais sortir. Elles seront
c'est comme les poules en batterie.
7 mètres carrés.
7 mètres carrés, c'est ça. Oui, c'est
exactement. Ce sont des vaches en batterie. On se rend compte que même la qualité des produits, hein, que ce soit le lait ou la viande, n'est pas ce que souhaitent les consommateurs. Hein. Et même en Allemagne, on a bien compris que ce genre de grand élevage n'était plus l'avenir et on en revient complètement. Donc pourquoi nous s'engager dans cette démarche qui n'est pas du tout la bonne à terme ?
Voilà, donc avec Novicen, nos villages se soucient de leur environnement et vous Philippe Salé, c'était notre opération Boost de là. André Pochon, d'ailleurs, qui est un agriculteur qui a beaucoup fait pour le travail sur l'herbe chez lui du côté des Côtes d'Armor, disait que la vache est un animal absolument génial parce que vous avez une barre de coupe à l'avant et vous avez un épandeur naturel à l'arrière. Ah oui, mais encore faut-il évidemment que ces bêtes soient dehors. Merci de nous avoir sensibiliser tu vois, on va sensibiliser revolver. Ouais, pas mal ça aussi.
C'est au de mon amour, Denis Chessy.
Choisi par Jean-Baptiste Olivier, notre programmateur. En attendant, Jean-Marie Pelt d'ici 3 minutes.
Up before the morning comes. I never tried to read the songs. Let's get together. I hear
C'était un petit groupe français, ils n'ont pas séché leur cours au lycée, ils ont très bien fait, ils chantent en anglais, ils s'appellent donc Revolver, et ça marche plutôt pas mal pour eux, tant mieux. Je ne sais pas s'il va nous parler en anglais, s'il a été très très bon. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Allez, c'est parti, j'ai un ouvrage, un livre qui s'appelle « Cessons de tuer la terre pour nourrir les hommes ». Ils nous ont parlé de phytoremédiation, Jean-Marie, rappelez-nous.
Alors, la phytoremédiation, c'est l'utilisation de plantes comme remède contre les pollutions. Voilà. Nous avons en Meurthe-et-Moselle, à Omécourt, le groupement d'intérêt scientifique pour les friches industrielles. Ça s'appelle le GISFI. Bon. Et ce GISFI travaille sur la manière dont les plantes peuvent dépolluer les sols. Alors, on sait depuis assez longtemps que les
eaux.
Plantes dépolluent les eaux. Ouais. On fait ce qu'on appelle le lagunage. Le lagunage, c'est de faire arriver des eaux usées, polluées, sur des terrains où poussent des roseaux en particulier. Et les bactéries qui sont liées aux racines, on en a déjà longuement parlé, vont dépolluer exactement comme elles dépolluent dans une station d'épuration. C'est exactement le même principe. Alors ça peut être très efficace parce que si on met par exemple des typhas qui sont les massettes, vous savez, ces espèces de roseaux avec un cylindre noir au sommet, ces plantes ont une capacité de dépollution très importante, y compris pour les produits chlorés, pour les déchets pétroliers, pour vraiment. C'est très surprenant.
On a les roseaux, les typhas, on a l'iris jaune.
L'iris jaune aussi. Ouais. Alors ça veut dire tout ça qu'il y a aussi une biodiversité là-dedans. Dans ces zones de lagunage, il y a plusieurs espèces de plantes, il y a les insectes, les oiseaux qui viennent, etc. Donc c'est très élégant comme méthode de purification de l'eau. Alors par contre, ce qui est très récent, c'est la dépollution des sols quand ils sont chargés, par exemple, de métaux lourds.
On pense à Noyelles-Godault, on pense au Nord, on pense autour de Douai. Et d'ailleurs, vous avez l'Université de Lille, avec Damien Cuny, qui s'occupe de cela depuis pas mal de temps.
Absolument. On pense aussi au cuivre dans les régions de vigne. Là, dans le nord, c'est du cadmium, surtout autour de Metal Europe. On pense aux Antilles, à la chlordécone, oui. Qui est un...
C'est une horreur, ça a flingué les sols merveilleusement sur les bananiers.
Terrible.
Contre le charançon du bananier, certes, ça fonctionne, mais les sols sont détruits.
Oui, impropre à la culture, et notre ami Bellepomme suspecte un effet très inquiétant sur la prostate, des cancers de la prostate, une augmentation des cancers de la prostate. Alors, les plantes vont, elles, absorber les polluants. Si ce sont des polluants organiques, elles vont les transformer, les détoxifier et les utiliser souvent pour leur propre métabolisme. C'est-à-dire qu'on arrive à cette situation tout à fait inattendue, que la plante, l'arbre en particulier, va faire de la matière vivante avec le polluant. Si c'est des métaux, ce n'est pas possible naturellement. Donc les métaux, ils vont s'accumuler dans la plante. Et si ce sont, par exemple, des nitrates, alors ceux-là vont être aussi pris par la plante. C'est un cas très intéressant. Vous savez, on voit des peupliers au bord de l'eau souvent. C'est remarquable parce que les sols qui contiennent trop de nitrates, parce qu'on a mis trop d'engrais, ces sols vont se dépolluer tout seuls par les peupliers qui boivent beaucoup d'eau par leurs racines. Et comme cette eau est riche en nitrates, ils sortent les nitrates. Et entre le champ et la rivière, il n'y a pratiquement plus de nitrates. Ça, c'est très important pour la protection de l'eau qui ne doit pas être nitratée à plus, vous le savez, de 50 mg par litre. Absolument. Alors, pour les métaux, il y a deux cas de figure. Il y a des métaux qui sont éliminés par la plante sous forme de gaz, parce que la plante va les méthyler. C'est le cas de l'arsenic, qui n'est pas métalloïde, c'est le cas du mercure. Mais ça, ce n'est pas très positif, parce que le métal, il part dans l'air. Oui. Donc, on a quand même...
Il a retrouvé quelque part.
On a, voilà.
Il y a une
super, alors,
etc.
Pour la plupart des métaux, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est la plante qui va les accumuler dans ses tissus. Et certaines plantes sont très accumulatrices.
On les appelle des hyperaccumulatrices.
Absolument. Et dans ce groupe, il y a surtout des crucifères.
Les choux.
Oui, par exemple.
Les moutardes.
Tout à fait. Des plantes de cette famille sont des plantes très accumulatrices. En Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de nickel dans les sols, puisqu'on travaille le nickel en Nouvelle-Calédonie. Alors, on est en train d'étudier actuellement, ça se fait en ce moment, des plantes endémiques spécifiques de la Nouvelle-Calédonie qui auraient ces propriétés d'être hyper accumulatrices. On en connaît au total 400 espèces fortement hyper accumulatrices. Et il y a cette très belle histoire de l'Albanie où on a des sols très riches en nickel et où on arrive à extraire du nickel par l'intérieur de la plante qui va contenir plus de 1% de nickel. Mais ce qu'on fait après, c'est qu'on brûle les plantes.
Oui.
Et on a donc rassemblé le métal qui était disséminé dans le sol. Il se trouve maintenant en petits tas. Quand on brûle, on a les résidus métalliques.
Donc, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des plantes qui remplacent les mineurs.
Tout à fait. Ça s'appelle d'ailleurs du remining.
Oui.
Et alors, pour le cas de l'Albanie, le nickel qu'on a récupéré, on l'a vendu. On l'a vendu et ça a grossi les ressources des agriculteurs locaux.
Ils sont très pauvres. Hein.
On a, oui, très pauvres. On a extrait, j'ai un chiffre là, 69 kilos de nickel par hectare. C'est considérable.
Mais quand on brûle ça, on rebalance d'autres cochonneries ou pas?
Non, elle reste là. C'est les cendres. C'est les cendres métalliques. Alors, on remarque aussi, mais ça, on pouvait s'attendre, qu'une plante qui est très riche, par exemple, en nickel ou en quelque métal que ce soit, devient toxique pour ces insectes prédateurs.
Oui.
Eh bien oui, parce que la plante est empoisonnée.
Oui.
Donc la plante est devenue toxique. Alors, ces stratégies-là relèvent de ce qu'on appelle le génie écologique. Mm-hmm. Je crois qu'on arrive petit à petit à comprendre les mécanismes de la nature et à s'appuyer sur eux pour que les choses se passent pas trop mal. Et ici, en l'occurrence, en ce qui concerne la lutte contre les pollutions. Alors, ça rentre dans le cadre des biotechnologies, dont on parle beaucoup. Alors, les biotechnologies, c'est un mot que j'aime pas du tout. J'aime pas ce mot « technologie de la vie », parce que ça fait penser à bricolage de la vie. Alors, quand on bricole trop la vie, on prend des risques. Ceux qui bricolent l'ADN pour fabriquer la vie en laboratoire, ils risquent de fabriquer des choses très dangereuses. Et donc, nous allons plaider pour un bon usage des technologies. C'est un vœu, bon, un peu pieux.
En tout cas, merci de nous avoir parlé donc de ces phytoremédiations que l'on retrouve dans ce livre « Cessons de tuer la terre pour nourrir les hommes ». Merci Jean-Marie, et à très vite. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Le très vite, ce sera quand même le 1er septembre. On va mettre un peu Jean-Marie au repos, tout à fait tranquillement. Et puis donc, on vous retrouvera tout à fait en pleine forme. Et on va faire le point dans quelques instants sur Emmaüs. C'est très intéressant. Donc, il y a ce salon qui aura lieu demain à la porte de Versailles. Mais on est vraiment à la charnière du recyclage, de l'environnemental, du social et de l'économique.
J'ai dans mon chapeau de magicien de la poudre de perles, un pimpin. Quelques chamallows de trois lapins, de quoi me sentir bien. J'ai pu lire dans le creux de ta main, car je suis un petit peu de vin, que nous partagerions nos chagrins et nos sourires coquins. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que fais-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne sais si tu croises au destin, peut-être as-tu peur des baladins. Mais si tu le souhaites un beau matin, nous prendrons ce chemin. Sais-tu qu'au bout se trouve un jardin, parfumé de l'odeur du jasmin, allongé à l'ombre des sapins, j'y demanderai ta main. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que fais-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Mais si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de petits seins. Oui, que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu ma douce. Que veux-tu ma douce.
Écoutez, dans ce monde de brut, une chanson comme ça, délicieuse, hein, ma douce, très, très Alain Souchonesque. Hein, vous avez remarqué un peu quand même comme inspiration de Barcella qui poursuit son chemin avec un bel album qui s'appelle Charabia. Ça ne peut nous faire que du bien. Peut nous faire du bien aussi d'aller demain à la Porte de Versailles, donc à Paris, pour la 13e édition du Salon Emmaüs qui a quand même permis à 25-30 000 personnes de venir déjà l'année dernière. On va en parler avec vous, Christophe Delton, parce que vous êtes le président d'Emmaüs France. Alors, bon, c'est une immense brocante, c'est-à-dire qu'il y a les 160 groupes d'Emmaüs de toute la France et puis aussi de l'Europe qui ont collecté, remis en état des biens. Donc, on est au cœur de l'économie sociale et solidaire, donc modèle économique et social tout à fait original, à base de récupération et de réemploi, Christophe Deltombe.
tout à fait à l'origine. Quand l'abbé Pierre, en 49, utilisait cette maison qu'il avait à Neuilly-Plaisance, il voulait en faire une auberge de jeunesse internationale, et en réalité, il en a fait un lieu d'accueil. Et ce lieu d'accueil, c'était des personnes qui étaient à la rue et qui pouvaient vivre grâce à l'allocation parlementaire de l'abbé Pierre. Et puis, quand il n'a plus été député, il a bien fallu trouver une activité, quelque chose pour pouvoir vivre. Alors, ils ont décidé d'être chiffonniers. Mais il y avait de la concurrence. Oui. Il y avait des chiffonniers. Et donc, la décision a été prise de faire essentiellement du vide-grenier, mais de l'époque, pas du vide-grenier d'aujourd'hui. C'est-à-dire de déménager des greniers, des caves, et en tout cas de récupérer tout ce que les gens ne voulaient plus, voulaient mettre au rancard. Et c'est ainsi que s'est développé ce modèle assez original qui est, pour la communauté Emmaüs, de collecter des objets, de les réparer, de les remettre en vente, de les remettre dans le circuit économique. C'est un peu une économie circulaire. Et grâce à ça, et uniquement par cela, la communauté peut vivre. Il n'y a pas de subvention de fonctionnement, c'est uniquement de la récupération et de la remise en vente d'objets. Et c'est ainsi que les communautés, les 116 communautés françaises, peuvent vivre par cette récupération.
Avec ce mot important qui est celui de l'insertion. C'est pour ça que je parlais de ce modèle tout à fait original.
Oui, parce qu'alors les communautés ont par ailleurs suscité la création, même mis en place des structures d'insertion, des ateliers, des chantiers d'insertion, de manière à offrir au public qui est en grande difficulté une diversité de possibilités. Soit la communauté qui est un lieu de vie d'abord et avant tout, dans lequel on peut rester 30 ans si on veut, et puis des structures d'insertion qui offrent des contrats d'insertion avec le dispositif qui a été mis en place par les pouvoirs publics, mais aussi qui permet de créer de l'emploi purement et simplement. Et donc, à côté des 116 communautés que nous avons 80 structures d'insertion, ce qui fait qu'il y a globalement 4300 compagnons et puis 1700 salariés en insertion, mais 3500 salariés au total parce que, et c'est la particularité à Emmaüs, on ne remet jamais personne à la rue. Oui. Or, un contrat d'insertion, vous le savez, ça dure 2 ans maximum. Donc, au terme du contrat d'insertion, si on n'a pas trouvé de réinsertion de la personne à l'extérieur, on va la conserver. On va pérenniser son emploi, on en fera un CDI. Certes, ce sera au SMIC, mais au moins, la personne aura un emploi. On ne la remet pas à la rue, c'est un principe.
Là, on est vraiment au cœur du social qui doit se marier avec l'environnemental. Vous le savez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les seuls dans cette économie sociale et solidaire, naturellement. On peut penser aux mutuelles et à d'autres organismes. Mais ça va complètement, je dirais, à l'encontre du modèle dominant. Lorsque l'on prend un objet, on prend de la matière première, puis après on le transforme, puis après on le consomme, puis après on le jette. Et ça devient effectivement un déchet. Bon, donc ça, c'est de l'économie linéaire. Vous, c'est de l'économie circulaire. Donc, ça veut dire réutiliser de la matière. Qu'est-ce que l'on réutilise chez vous principalement ? Qu'est-ce que c'est textile, électronique ?
C'est tout. On raconte un jour qu'un électricien dans une communauté vient réparer une lampe. Alors il pose sa boîte à outils, il monte à l'échelle, il redescend, il n'y a plus de boîte à outils, elle a été vendue. Petite histoire rigolote, mais simplement on vend de tout, absolument de tout. Oui. Évidemment des textiles, le textile c'est à peu près 30% du chiffre d'affaires de l'ensemble. Des meubles, beaucoup de meubles, et puis des objets de toutes sortes. Je voulais quand même vous donner un chiffre. Oui. Vous savez qu'on fait on pourra dire qu'on fait de la prévention de déchets.
Oui.
250 000 tonnes par an sont collectés par Emmaüs. Et c'est croissant. Tous les ans, on en collecte de plus en plus. Et grâce à ces 255 000 tonnes, grâce à ça, on fait vivre les structures Emmaüs. Malheureusement, il y a encore beaucoup plus de déchets en France, mais on pourra en collecter encore plus. Il ne s'agit pas de déchets, en réalité, il s'agit d'objets avant le déchet. Il s'agit d'objets qui sont destinés souvent à la décharge, parce qu'ils ne servent plus, parce qu'on n'en veut plus. Eh bien, nous, on les remet dans le circuit. Et finalement, il y a des acheteurs. Et puis, je dirais, Emmaüs, ça s'adresse aussi à une population très modeste. De plus en plus, ces populations modestes viennent s'équiper dans les communautés Emmaüs. Mais du coup, ce sont des personnes qui vont acheter une machine à laver, un fer à repasser, des affaires pour les bébés aussi. On a absolument toute la panoplie possible et imaginable. Tout ça, ça permet à des populations très modestes de s'équiper. Et là, on crée une vraie chaîne de solidarité entre le donateur, la personne qui apporte sa vieille armoire, sa collection de livres, etc. Et puis, cette population très modeste qui vient acheter, toute la chaîne de solidarité se met en place.
Chic, choc, très tendance et pas cher, durable au moins une fois par semaine, c'est CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, je me dis, j'ai des objets qui me paraissent obsolètes. Soit je peux les déposer en déchetterie quand ils sont acceptés, mais je peux aussi les déposer chez vous, chez Emmaüs.
Bien sûr, on les dépose chez Emmaüs. On va, l'apport volontaire dans les communautés Emmaüs est, je dirais, l'apport principal. On fait également, bien sûr, des déménagements. Par exemple, quand une famille décide de déménager, qu'elle a un certain nombre de meubles dont elle ne veut plus, et on les remet en vente. D'ailleurs, à cet égard, puisqu'on parle du salon de demain, ils peuvent venir avec leur vieux téléphone portable. On mettra des bornes pour les collecter, parce que nous, on les récupère. S'ils sont en bon état ou on peut les réparer, alors on les remet dans le circuit, et ça va servir à d'autres. Et puis, s'ils ne sont pas en bon état, on va récupérer les matériaux, je dirais les métaux qui sont à l'intérieur et qui peuvent resservir de cette
manière.
Alors,
c'est ce que font les ateliers du bocage, entre autres.
Absolument, les ateliers du bocage, qui est une des structures du mouvement Emmaüs, hein, qui récupère les téléphones portables, également les ordinateurs. Et puis, on va envoyer en Afrique un certain nombre de ces matériels. On va équiper des écoles de cette manière. On équipe des collectivités, des associations, des ONG avec tout ce matériel. Mais on récupère les objets qui sont à leur tour en grande difficulté. Et soit on arrive à mettre en place des chaînes de retraitement de ces objets, de ces ordinateurs sur place. Et ça commence à se faire, on a déjà créé de l'emploi. Soit il n'y a pas la structure et on les ramène en France. On va récupérer les poubelles africaines pour les retraiter en France. Voilà, on essaie d'établir ainsi un lien de solidarité et de la création d'emplois autant qu'on pourra le faire en Afrique.
Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui? Ah, mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi.
Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaïeu de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera.
Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, vous ne risquez pas de vous tromper.
Christophe Deltombe, j'ai envie de pointer un peu sur le textile. Qu'est-ce que c'est le métis chez vous?
Le textile qu'on récupère, d'abord, il faut le décliner. Il y a le très bon et qu'on va vendre dans les friperies et ça se vend très bien, il n'y a aucun problème.
On consomme en France 700 000 tonnes de vêtements, hein, pour le savoir. Ça veut dire 11 kilos par habitant.
Voilà, ça c'est le gisement. On en collecte à peu près 120 000 tonnes. Emmaüs collecte 80% de ces 120 000 tonnes. Bon, donc on est vraiment les collecteurs principaux. Cette collecte qui est faite à la fois par les structures d'insertion et par les communautés, en particulier la structure d'insertion Le Relais, qui fait partie du mouvement Emmaüs, va soit être vendue parce que c'est en très bon état, soit être retraitée pour être du chiffon industriel, soit être à nouveau retraitée quand c'est encore moins bon pour tirer de la fibre textile, soit quand c'est vraiment très mauvais, alors on va déchiqueter ça et on va en faire un matériau pour le bâtiment. Ça s'appelle le métis. C'est un composant de textile, vous voyez, du vieux jean, déchiqueté par exemple, et c'est un isolant thermique et phonique. Il a maintenant toutes les certifications qu'il faut. On a une usine, on a mis en place cette usine, elle est toute récente, et on va produire maintenant ce métis pour le bâtiment. Voilà, comme ça, on récupère. Il faut trouver des tas de solutions, parce que moins il y a de déchets, mieux on se portera.
Voilà comment j'ai vécu et je souhaite que continue à vivre Emmaüs. Souvent, j'ai comparé à un arbre. Bon, les racines, c'est les communautés. On peut couper l'arbre. Si les racines sont vivantes, demain, il y a un nouvel arbre.
Continuons à recycler. On voit très souvent des palettes hein, qui servent à transporter donc les marchandises. Qu'est-ce que l'on peut en faire?
Quand elles sont en mauvais état, on va les déchiqueter et on va faire un combustible pour le chauffage. On a mis en place des logis qui, actuellement, on vend du combustible à certaines collectivités locales. Et puis, quand elles sont en bon état et qu'on a une autre idée d'utilisation, on va en construire des petits chalets. Alors, on monte des murs avec des palettes. On met de l'isolant au milieu et grâce à ces petits chalets, on va faire des structures qui sont démontables, qui font environ 65 mètres carrés au sol, qui coûtent 1000 euros le mètre carré. Vous faites le calcul, c'est pas très cher. Et qui permettent ainsi à des collectivités de faire de l'hébergement d'urgence, puisque c'est démontable, on peut monter, démonter. Et ainsi, des collectivités locales achètent nos petits chalets et font de l'hébergement d'urgence.
Merci à vous Christophe Deltombe. Donc rendez-vous demain, Salon d'Emmaüs à la Porte de Versailles pour la 13e édition. Et puis si vous souhaitez voir où est la communauté la plus proche, la structure d'insertion, bien sur le site d'Emmaüs.fr, vous avez toutes les informations que nous avons indiquées sur le site de CO2 Mon Amour. Donc, comme c'est un magazine, nous avons parlé de la bouse de vache XXL, nous avons parlé avec Jean-Marie Pelt d'Emmaüs, mais oui, mais il y a encore un autre sujet, ça va être avec Nathalie Fontrel, l'actualité. Après Madonna. C'est Jean-Baptiste Audibert qui nous a recyclé Madonna. Mais oui, tout à fait, c'était musique. Elle a refait de partout, elle, je ne sais pas. Alors donc, c'était Madonna, et donc on poursuit notre voyage. Je vous signale, je vous rappelle, si tout va bien pour vous, que c'est l'été dans le nord de la France. Hein. Ouais. Ah oui, au-dessus de la Loire, c'est ça. Au sud, tout va bien, j'ai vu la carte, là, c'est plutôt pas mal. On poursuit, et la voici, la voilou, avec ce merveilleux générique.
Les oiseaux. Dans la oui, charmille.
Oui, voilà, c'est joli, mais là, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Eh oui, bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Bon, dites donc, là, je vois que vous n'êtes pas à Rio, comme Obama, comme Merkel, Cameron, Poutine, Liu Xintao, vous avez séché. Hein, vous êtes...
Ah, j'ai séché parce que j'imaginais bien comment ça allait se terminer. Voilà. Et je rappelle que nous sommes service public et que l'argent est contribuable. Voilà, c'était un peu cher, le jeu n'en valait pas la chandelle.
Bon,
mais nous avons couvert, nous avions du monde.
Mais je sais bien, vous avez absolument entendu. On va revenir sur le diesel. J'en avais un petit peu parlé dans mon papier d'introduction la semaine dernière. Et le classement cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, alors je rappelle, hein, il s'agit de cette fameuse pollution de l'air par les particules et on sait déjà qu'elle précipite le décès de 42 000 personnes par an en France. Mmh. Des gens souffrant de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance respiratoire, eh bien à ces décès s'ajoute désormais le risque cancérogène.
Bon, et on sait que les particules sont majoritairement émises par les moteurs diesel.
Ce sont les conclusions de l'enquête du réseau de mesure de la qualité de l'air en Île-de-France. Arthur Depas, porte-parole d'Air Paris.
C'est un polluant complexe, c'est-à-dire qu'il y a d'origines variées, à la fois des origines directes du trafic routier, mais également des industries et aussi du chauffage urbain. Et après, il faut savoir que ces particules se transforment, qu'il y a des remises en suspension, qu'il y a des transformations chimiques d'autres polluants qui donnent naissance aux particules et qu'il y a aussi des déplacements de particules sur des longues distances. Donc tout l'objectif d'Air Paris, via une étude, une campagne de mesure importante qui a duré plus d'une année, a été justement de pouvoir connaître sur la particule qu'on mesure, par exemple là aujourd'hui, près du boulevard Haussmann, quelle est finalement la responsabilité de chacune de ces sources sur la particule qu'on respire. Donc ce que ça a montré cette étude, c'est que finalement, sur ces particules qu'on respire en bordure d'un axe important, 45% proviennent vraiment du trafic local, 15% de la pollution ambiante de l'agglomération et 40% d'import de particules d'autres régions.
Et dans le trafic automobile, qui est coupable, entre guillemets ?
L'essentiel, plus de 90%, provient des véhicules diesel. Ce problème des particules liées au trafic n'est pas une spécificité de l'agglomération parisienne, mais est un problème que toutes les grandes agglomérations rencontrent.
Et pourtant, on va vous dire, les moteurs diesel sont bons pour le climat.
Et oui, parce qu'ils consomment 20% de moins que les moteurs à essence. Ils émettent donc moins de CO2, gaz à effet de serre.
Alors, est-ce qu'il faut choisir entre la lutte contre le changement climatique et la qualité de l'air ?
Eh bien, c'est la question que j'ai posée à l'ancien président du Conseil national de l'air, Jean-Félix Bernard.
On pose mal le problème en opposant la lutte contre l'effet de serre, qui est une lutte de long terme, qui se discute sur des décennies, voire des siècles, et la lutte contre les produits toxiques pour la santé, qui eux sont toxiques immédiatement. Il y a des solutions qui existent, de lutte intégrée, qui permettent de régler ces deux choses en même temps. Par exemple, des véhicules légers qui consomment peu et qui ne sont pas au diesel permettent, au gaz par exemple, au GPL, permettent d'accorder ces deux problématiques en même temps. Je constate que ça n'est pas fait, sans doute du fait de l'influence des lobbies des constructeurs automobiles, mais c'est possible. Enfin, on peut lutter contre les deux en même temps. Enfin bon, quand même, la santé d'abord.
Alors on va vous dire que les diesels sont de plus en plus propres ou de moins en moins sales, quoi.
Oui, grâce aux filtres à particules, et c'est ce que répondent effectivement les constructeurs. François Roudier du Comité des constructeurs français.
Le filtre à particules permet d'arrêter toutes les particules qu'on peut mesurer. C'est-à-dire que vous avez des normes qui avancent au même niveau que la technique. Il y a 15 ans, on aurait été incapable de trouver vraiment toutes les particules qui sortaient parce qu'on ne pouvait pas les mesurer. Or, plus on arrive à les mesurer, plus on réussit à les enlever. Et effectivement, on sait que s'il reste des particules, elles ne sont pas mesurables. Donc, on a quand même de très bons résultats sur les filtres à particules. L'émission de particules, il faut bien voir qu'elle est dangereuse dans certaines conditions. C'est-à-dire quand vous êtes dans une cuvette, quand les conditions atmosphériques sont particulières. Regardez lorsqu'il y a des émissions de pollution, comme par hasard, ce sont les jours où il n'y a pas de vent, où il fait chaud, où on est écrasé. Paris est une cuvette, Lyon est une cuvette, à Marseille, vous n'avez pas de problème. Donc vous avez tout un ensemble de facteurs très chimiques qui dépassent ce que nous, constructeurs, sommes capables de faire, qui affectent cette rétention de particules. Lorsqu'on voit des études sur les particules, il faut bien voir dans quelles conditions elles sont émises. Est-ce qu'elles sont calculées par rapport à des véhicules qui n'ont pas les nouvelles normes ? Hein, vous avez beaucoup d'études des années 80 qui, effectivement, se faisaient sur des véhicules qu'on a tous connus, qui même sentaient mauvais, sentaient le diesel. Maintenant, vous ne sentez plus le diesel à l'arrière d'un pot d'échappement, puisque notre objectif, nous, constructeurs, c'est avant tout de brûler au maximum tout le carburant pour produire toute l'énergie possible. Donc, l'amélioration de ces moteurs plus le filtre à particules fait que les diesels qui sortent actuellement sont des diesels propres.
Oui, propre, point d'interrogation quand même. Hein.
Bah, en tout cas, c'est vrai, on ne mesure pas plus grand-chose à l'échappement.
Alors, peut-être parce qu'on est incapable de mesurer l'infiniment petit.
La nanoparticule, celle qui peut traverser le seul filtre qui reste, hein, ce sont nos poumons. Et elles peuvent se loger dans n'importe quelle partie du corps.
Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas au moins supprimer les avantages fiscaux accordés aux voitures diesel et au gasoil ? On sait qu'il y a eu quand même un lobby depuis des années de la part des constructeurs pour pousser vraiment le diesel.
Et bien, sur notre antenne, la question a été posée à la ministre de la Santé qui a renvoyé les particules dans la cour de la déjà ex-ministre de l'écologie, oui. Nicole Bricq, qui, elle, a soufflé dessus, direction Bercy et le ministère du Budget.
Ouais, chouette, d'accord. Bien, alors dites donc, j'ai vu passer un petit tweet qui était très intéressant. Il y avait marqué, c'est la première fois qu'un bateau coule une brique.
Eh oui.
Ah, j'ai vu ça, c'était pas mal. Je pense connaître effectivement l'origine de ce fameux tweet. Enfin, donc on n'a pas eu le temps de s'attacher complètement à Nicole Bricq, qui est désormais ministre du Commerce extérieur et donc remplacée à l'écologie par Delphine Bateau.
Allez, pour lui dire au revoir à l'ex-ministre de l'écologie, je ne résiste pas à l'envie de vous faire réécouter sa réponse lorsque je lui ai posé la question. Ne faudrait-il pas revoir les allègements fiscaux dont bénéficie le gazole ?
Je ne suis pas ministre du budget, ça se saurait. La dieselisation du parc, c'est un fait. Donc il faut tenir compte des intérêts socio-économiques, l'emploi. Surtout quand on a un chômage important, ce rapport est utile. Il faudra effectivement tirer les conséquences. Mais je ne serai pas toute seule à le faire.
Voilà, elle n'était pas ministre du budget et aujourd'hui, elle n'est plus ministre de l'écologie.
Bon, en tout cas, le dossier diesel ne risque pas d'être réglé à la vitesse de l'éclair.
Chez les Shadok, il y avait des machines à pomper soi-disant perpétuelles. Des machines à pomper des cailloux, des machines à pomper l'air, des machines à pomper des trucs et des machins.
Mais aussi des machines à pomper du pétrole. Alors un dossier, en tout cas Nathalie, a été fermé et réouvert très vite.
Les forages d'exploration pétrolière de Shell au large de la Guyane. Oui. La semaine dernière, l'ex-ministre de l'Environnement annonce leur suspension. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils pourront commencer dès la semaine prochaine. Les permis, en réalité, sont légaux. Mmh. Alors que François Hollande a dit son engagement pour la protection de la planète à Rio, eh bien, la France va sucer jusqu'à la dernière goutte d'hydrocarbures.
Comme tous les pays d'ailleurs. Je tiens à rajouter dans l'actualité que 4 forages pétroliers de recherche ont été autorisés par le préfet de Seine-et-Marne à la société Toreador S. Ces permis ont été délivrés sous Jean-Louis Borloo et ne peuvent être annulés sauf à payer de gros dédommagements aux sociétés. Alors, ce n'est pas exactement un permis géologique. En fait, ils sont destinés à savoir si l'exploitation de telle ou telle couche est possible et rentable. On va rester sur le sommet de Rio, Rio plus 20. Alors, je ne sais pas si on écrit 20, V-A-I-N. Qu'est-ce que l'on a fait depuis ces 20 ans ?
20 ans depuis le premier sommet de la Terre. Rio accueillait, c'est vrai, un nouveau sommet cette semaine. Un flop. Les dirigeants de la planète ont adopté une déclaration, c'est vrai, mais complètement édulcorée et sans engagement précis.
Et donc, il y a une question qui a pollué les débats, c'est cette fameuse économie verte qui intéresse bien d'ailleurs aussi les multinationales.
Kizako, chacun a sa propre définition. Et pour les écologistes, méfiance, on nous a déjà fait le coup. Le président du RAC,
le réseau Action Climat,
Pierre Perbos, rappelle l'histoire des agrocarburants, une compétition entre la production d'aliments et la propulsion des voitures.
Avec le développement des agrocarburants, une part de plus en plus importante de cette production agricole passe dans la production d'énergie. Donc, il faut trouver d'autres terres, en général dans des pays d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est, pour cultiver la partie de l'alimentation qui, en Europe, est passée dans les agrocarburants. Et ceci induit le défrichage de prairies en Argentine, par exemple, pour cultiver du soja, ou, ce qui est encore plus grave, de forêts tropicales en Indonésie. Et ce défrichage de prairies et de forêts dégage des quantités de carbone considérables qui sont stockées dans le sol depuis des décennies ou des centaines d'années. Alors c'est du CO2 qui repart dans l'atmosphère et ce CO2 est tellement important qu'en général, il détruit complètement les gains environnementaux représentés par les agrocarburants. Il est clair que le soutien des agrocarburants, c'est une politique agricole en faveur d'un type intensif d'agriculture, celui qu'on pratique en France, mais ce n'est pas du tout une politique agricole verte.
Qui craint le grand méchant loup, c'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tra la 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 la.
Autre sujet, vous l'avez compris, un décret a été signé en catimini et sur le fil le jour de la démission du gouvernement Fillon, Nathalie.
Oui. Ils sont pas contents, là. Il élargit effectivement les autorisations de tir sur les loups, même si le troupeau attaqué n'est pas protégé par des chiens patous, par exemple. Eh bien, tous les troupeaux voisins pourront procéder au tir, même s'ils n'ont pas été eux-mêmes attaqués par le prédateur, et cela seulement après une attaque dans l'année ou dans l'année précédente.
Alors, l'ASPAS a décidé de porter plainte auprès de la Commission européenne.
L'Association pour la protection des animaux sauvages rappelle que le loup est une espèce protégée et qu'il convient de protéger aussi les troupeaux avant d'autoriser les tirs de défense. La France, mais elle en a l'habitude, risque encore une fois d'être condamnée par l'Europe.
Oui, et puis visiblement, les moutons ne se sont pas rendus aux urnes pour remercier M. Fillon.
Non, ils se sont abstenus.
C'est ça. Alors là, ça nous fait une belle liaison, évidemment, mouton, le loup. Et on va garder le mouton parce qu'on va se retrouver dans cette superbe plaine de l'Acro. Et c'est la fin de l'enquête sur la pollution de la plaine de l'Acro.
Oui, c'était en 2009, rappelez-vous. La rupture d'un oléoduc a déversé 4500 tonnes de pétrole dans la réserve des Caussous de la plaine de Crau, dans les Bouches-du-Rhône. Les experts ont pointé le mauvais état des canalisations du pipeline, alors que l'exploitant pétrolier, lui, estimait que elle n'avait pas de limite de durée de vie.
Bon, voyons, sans commentaire.
Alors, l'affaire doit être renvoyée devant une juridiction pénale. En attendant, malgré les travaux de dépollution, eh bien, la nature mettra des années à reprendre ses droits dans cette plaine de Crau qui est un véritable bijou de diversité biologique. Écoutez Axel Wolf, le conservateur de la réserve des Caussous.
La Crau, c'est l'ancien delta de la Durance. Pendant plusieurs millions d'années, la Durance se jetait directement dans la mer au niveau de la Crau. Et avec le flux, le reflux de la mer pendant ces millions d'années et le flux de la Durance, donc ça a rempli d'anciennes vallées, de galets, et donc ça donne aujourd'hui cette steppe qui fait à peu près 60 000 hectares. Il y a à peu près 130 espèces végétales, on peut trouver jusqu'à 70 espèces par mètre carré, donc c'est un milieu qui est extrêmement riche. Et puis on a aussi une communauté d'oiseaux qui est vraiment très particulière au niveau national, puisque en tant que seul steppe naturelle d'Europe de l'Ouest, on a des oiseaux qui sont très très rares en France. Par exemple le Gangakata, dont la seule population française se trouve ici dans la Crau et niche dans les Caussous. Et puis d'autres espèces extrêmement rares comme l'alouette calandre, l'outarcane petière, par exemple.
Et comme nous sommes évidemment en plaine, on a entendu le vent, le Mistral n'est pas loin dans le micro. Oh, tenez!
Quel paysage, mes enfants, c'est magnifique!
Oh, c'est vrai, Pierre, tout ce blanc de la neige, ça fait nickel, hein, c'est net.
Ça fait propre, ça fait propre.
Ouais, ouais. Et quand on pense à ce que c'est devenu la Méditerranée.
Alors là, la mer maintenant, c'est dégueulasse.
Ouais. C'est un vrai dépotoir, tu peux pas poser tes fesses sans t'asseoir sur une boîte à conserve.
Bah, ici, au moins, quand t'arrives, c'est propre.
Le problème, c'est quand tu repars.
Mais non, la neige, ça recouvre tout, alors ça reste immaculé.
Mais ouais, et l'été, quand ça fond, qu'est-ce que tu fais?
L'été, tu vas pas ici, tu vas à la mer.
Ouais, mais la mer, c'est dégueulasse.
Voilà. Mais oui. Mais c'était assez prémonitoire, ça, quand même, cher bronzé. Donc, chère nature, si l'on pouvait ne pas complètement l'enlaidir en jetant tout et n'importe quoi par terre, c'est l'objectif de l'opération Vacances Propres.
Jeter dans une poubelle et s'affranchir de ce que Jean-Michel Cousteau,
le fils du commandant,
de ce qu'il appelle le réflexe du singe. Vous savez, lorsque le singe a mangé sa banane, eh bien, il jette la peau de banane par terre.
Oui.
Et ce réflexe de singe maquille les bords de route. 8800 600 tonnes de déchets sauvages par an.
Et sur les plages aussi.
400 tonnes par an, même quantité sur les pistes de ski. Bref, remporter les déchets avec soi, apparemment, ce n'est pas la mode. D'où ces sacs poubelles que vous connaissez quand même, hein, oui. Rayés de jaune et de rouge que Vacances Propres déploie sur les sites touristiques. Et pour sensibiliser les Français, pour leur donner le réflexe de jeter leurs déchets dans la poubelle, eh bien écoutez ce spot du ministère de l'Environnement. C'est très tendance en ces temps d'euro.
Euro de foot, bien sûr.
Oui, c'est un doublé pour les Rouges. Magnifique lancé de Mégo. Quelle classe, quel naturel.
Ah, c'est beau, il peut être fier de lui, le concurrent rouge. Hein.
Ah oui, et ça enchaîne. Oh oui, double jeté d'emballage pour les jaunes.
Alors, comment vont réagir les Rouges? Alors, voyons maintenant le score de l'équipe rouge, lancé de Mégo.
Lancé de Mégo. Monsieur l'arbitre, combien? 137 Mégo, 137.
Ah oui, je crois que c'est un record.
Ah oui, bravo. Alors je vous rappelle que vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr tous participer à la pollution des mers et des océans. C'est très facile, que ce soit chez vous ou dans votre ville.
On se retrouve dans quelques mois pour les épreuves d'hiver à la montagne.
Ah, j'ai hâte, Francis, j'ai hâte.
Chaque année, 6 400 000 tonnes de déchets sont déversées dans les mers et les océans. 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins sont tués par des déchets. L'important, c'est de ne pas participer.
Voilà, mais écoutez, non mais c'est comme ça que ça passe, hein. C'est par l'humour, sinon on s'en sort pas. Donc
vous savez, les mégots, ça représente 40% des déchets sauvages présents dans la nature, les plages, etc. Et c'est juste derrière les emballages.
Ah
c'est vraiment un sport national, le lancer de mégots.
Moi, j'aurais aussi...
On est champion du monde.
J'aurais salué ce que je les ai vus. Oui, on est très bien de ce côté-là. Saluer aussi le bénévolat, les associations qui font un boulot remarquable. J'ai vu ça l'autre jour dans le parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse. Et il y avait donc des gens en gilet, etc., qui ramassaient toutes les familles. Ça, écoutez, bravo, et ça fait quand même du bien. Merci, Jean-Nathalie Fontrelle. On se retrouve au mois de septembre, ça vous va?
Oui, bonnes vacances, ah, Denis. Allez, bonnes vacances aussi. À tous.
Juste un petit mot pour vous dire aussi que ce week-end aura lieu à Mur-Sérigné dans le Maine-et-Loire, une opération très intéressante qui est une façon de lutter contre la spéculation avec une monnaie à usage solidaire et écologique qui sert vraiment dans l'économie réelle. Voilà, donc on fera un sujet à la rentrée, mais c'est tout à fait intéressant que ça se passe à Mur-Sérigné si vous souhaitez en savoir plus dans le Maine-et-Loire. Merci à Sandrine merci à Sandrine Laurent et à Philippe Duclos. À Stéphane Combe, à Joël Levert, à Valérie Ayestaraï qui a réalisé l'émission. Je tiens à la remercier pour ces deux années donc, de réalisation. Si, si, il faut le dire. Merci à Patrick Deschamps, à Albert Houck, à Jean-Baptiste Audibert, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et alors la semaine prochaine, je vais vous retrouver, mais ce sera différent. Au mois de juillet, ce sera le samedi et le dimanche à 16h pour une émission qui s'appelle Qu'importe le chemin, comme l'an passé, où des gens connus, tels Daniel Herrero, Pierce Faccini, Sanseverino, Jean-Louis Fournier, Miossec, Philippe Delerme, se raconteront donc à travers des cartes routières. Donc c'est une autre façon de les interviewer. Et on voyagera, on fera travailler notre imaginaire à la radio. On n'a pas les images, c'est formidable, on va donc les fabriquer. Denis Chessot, je vous souhaite un excellent week-end, de très belles vacances. L'actu du bon petit loup, oui, ce sera aussi une petite dernière demain à 19h54. Et puis je vous rappelle, si vous aimez les abeilles, vive les abeilles, ce numéro de Terre Sauvage, remarquable, je vous en ai parlé en entrée. Alors, on va rester dans le domaine de la mer, je ne suis pas sûr qu'on parle de pollution, tiens.